Chapitre 7. La baby Austin. Revenu dans la roulotte, je suis monté sur une chaise pour allumer la lampe accrochée au plafond. J'avais des devoirs à faire pendant le week-end et c'était aussi bien de m'y mettre maintenant. J'ai posé mes livres sur la table et je me suis assis. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. La pendule indiquait 7h30. C'était l'heure du crépuscule. Il devait être arrivé maintenant. Je l'imaginais dans son vieux pull bleu marine avec sa casquette à large visière, marchant d'un pas souple sur le chemin qui menait au bois. Il m'avait dit qu'il mettait ce pull parce que le bleu marine ne se voyait pas du tout dans l'obscurité. Le noir était encore mieux, disait-il. Mais il n'avait pas de pull noir et le bleu marine était ce qu'il y avait de plus proche. La casquette à large visière était importante aussi, m'avait-il expliqué, car elle maintenait le visage dans l'ombre. En cet instant, il devait se faufiler à travers une haie et pénétrer dans le bois. C'était comme si je l'avais vu s'avancer avec précaution sur le sol recouvert de feuilles mortes, s'arrêtant, écoutant, avançant à nouveau sans cesser de scruter les ténèbres pour repérer le garde-chasse qui, quelque part, se tenait immobile à côté d'un grand arbre, un fusil sous le bras. Les gardes-chasse ne bougent pratiquement pas quand ils guettent les braconniers, m'avait-il dit. Ils restent parfaitement immobiles contre le tronc d'un arbre, et il n'est pas facile de repérer un homme figé dans cette position au crépuscule, quand les ombres sont aussi obscures que la gueule d'un loup. J'ai refermé mes livres. Il ne servait à rien d'essayer de travailler, et j'ai décidé d'aller plutôt me coucher. Je me suis déshabillé, j'ai mis mon pyjama et j'ai grimpé dans ma couchette. J'ai laissé la lampe allumée, et quelques instants plus tard, je dormais. Lorsque j'ai rouvert les yeux, la lampe à huile brillait toujours et la pendule sur le mur indiquait 2h10. 2h10 ! J'ai sauté hors de ma couchette et j'ai regardé dans celle du dessus. Elle était vide. Il m'avait promis qu'il serait de retour à 10h30 au plus tard, et il tenait toujours ses promesses. Il avait près de 4h de retard. À cet instant, j'ai senti monter en moi un sentiment terrifiant de fatalité. Quelque chose lui était véritablement arrivé cette fois-ci. J'en étais certain. « Attends, me suis-je dit, ne panique pas. La semaine dernière, tu as cédé à la panique et tu t'es rendu un peu ridicule. » Oui, mais la semaine dernière, c'était complètement différent. Il ne m'avait fait aucune promesse. Cette fois, en revanche, il avait dit « Je te promets que je serai là à 10h30. » C'étaient ses paroles exactes. Et jamais, absolument jamais, il n'avait manqué à une promesse. J'ai regardé à nouveau la pendule. Il avait quitté la roulotte à 6h, ce qui signifiait qu'il était parti plus de 8h. Il ne m'a fallu que 2 secondes pour décider de ce que je devais faire. J'ai très vite enlevé mon pyjama et j'ai mis ma chemise et mon jean. Peut-être que les gardes-chasse l'avaient blessé si gravement qu'il ne pouvait plus marcher. J'ai enfilé mon pull par-dessus ma tête. Il n'était ni bleu marine ni noir, il avait une couleur marron clair. Mais il faudrait bien que ça aille. Peut-être que mon père était allongé quelque part dans les bois à perdre son sang. Mes baskets n'avaient pas non plus la bonne couleur, elles étaient blanches. Mais elles étaient sales, ce qui avait atténué leur blancheur. Combien de temps me faudrait-il pour arriver jusqu'au bois? 1h30? Moins si je courais sur la plus grande partie du trajet, mais pas beaucoup moins. Au moment où je me penchais pour nouer mes lacets, j'ai remarqué que mes mains tremblaient. Et je ressentais des picotements dans mon estomac, comme s'il était rempli de petites aiguilles. J'ai sauté de la roulotte et me suis précipité dans l'atelier pour y prendre la torche. Une torche est une bonne compagne quand on est seul, dehors, la nuit. Et je voulais l'emporter. Je l'ai prise d'un geste vif et je suis ressorti de l'atelier. Je me suis arrêté un moment à côté des pompes à essence. La lune avait depuis longtemps disparu. Mais le ciel était clair et une immense masse d'étoiles tournoyait au-dessus de ma tête. Il n'y avait pas le moindre souffle de vent et aucun bruit d'aucune sorte. À ma droite, s'enfonçant dans l'obscurité de la campagne, s'étendait la route solitaire qui menait dans les bois menaçants. 10 kilomètres. Dieu merci, je connaissais le chemin. Mais ce serait un long et difficile effort. Je devais essayer d'avoir un bon pas régulier et ne pas me mettre à courir pour être obligé de m'arrêter au bout du premier kilomètre. À cet instant, une folle et merveilleuse idée m'est venue à l'esprit. Pourquoi ne pas y aller avec la baby Austin ? En fait, je savais conduire. Mon père m'avait toujours laissé déplacer les voitures lorsqu'elles arrivaient pour être réparées. Il me permettait de les rentrer à l'intérieur de l'atelier et de les sortir quand tout était fini. Et, parfois, je les amenais lentement devant les pompes à essence en restant en première. J'adorais faire ça. Et j'arriverais dans les bois bien plus vite si j'y allais en voiture. C'était une urgence. Si mon père était blessé et qu'il saignait abondamment, chaque minute comptait. Je n'avais jamais conduit sur la route, mais il n'y aurait certainement pas d'autre voiture à 7 heures de la nuit. Je pouvais rouler très lentement et rester près du talus en conduisant du bon côté. Je suis retourné à l'atelier et j'ai allumé la lumière. J'ai ouvert la double porte, je me suis installé au volant de la Baby Austin. J'ai tourné la clé de contact, j'ai tiré le starter, j'ai trouvé le démarreur et j'ai appuyé dessus. Le moteur a toussé, puis il s'est mis en route. Maintenant, les phares. Il y avait un bouton pointu sur le tableau de bord et je l'ai tourné sur L. Les lanternes se sont allumées. J'ai tâté la pédale d'embrayage du bout du pied. J'étais tout juste capable de l'atteindre. Mais je devais tendre les orteils pour l'enfoncer jusqu'au bout. Je l'ai enfoncé. Puis j'ai passé le levier de vitesse en position de marche arrière et lentement, j'ai reculé la voiture pour la sortir de l'atelier. Je l'ai laissé tourner au ralenti et je suis retourné éteindre la lumière de l'atelier. Il valait mieux que les choses aient l'air le plus normal possible. La station-service était dans le noir maintenant, à part la faible lueur de la lampe à huile toujours allumée dans la roulotte. J'ai décidé de la laisser. Je suis retourné dans la voiture et j'ai refermé la portière. Les lanternes étaient si faibles qu'elles n'éclairaient pas grand-chose. Je suis passé en feu de croisement, c'était mieux. J'ai cherché du pied le basculeur de phare, je l'ai trouvé. Je l'ai essayé et il marchait. J'ai alors allumé les pleins phares. Si je croisais une autre voiture, je devais penser à les rebasculer en feu de croisement, même si, en fait, il n'était même pas assez brillant pour éblouir un cafard. Il ne donnait pas plus de lumière que deux bonnes lampes. J'ai enfoncé à nouveau la pédale d'embrayage et j'ai passé la première. Ça y était. Mon cœur battait si férocement que je l'entendais dans ma gorge. 10 mètres plus loin, c'était la route. Il faisait aussi sombre qu'au jour du jugement. J'ai relâché l'embrayage très lentement. En même temps, j'ai appuyé un tout petit peu sur l'accélérateur avec le bout de mon pied droit et, furtivement, c'était une sensation merveilleuse. La voiture s'est mise à avancer, comme si elle se penchait en avant. J'ai appuyé un peu plus sur l'accélérateur et nous sommes sortis de la station-service en nous engageant sur la route déserte. J'étais pétrifié par la peur, je l'avoue. Mais en même temps que la peur, j'éprouvais un merveilleux sentiment d'excitation. La plupart des choses passionnantes que nous faisons dans la vie nous font très peur. Elles ne seraient pas passionnantes sans cela. J'étais assis, raide et droit sur mon siège, les mains serrées sur le volant, dont le haut arrivait à peu près au niveau de mes yeux. Un coussin m'aurait été utile pour être un peu plus grand, mais il était trop tard. La route me semblait terriblement étroite dans l'obscurité. Je savais qu'elle était assez large pour permettre à deux voitures de se croiser. J'avais pu le constater 1 million de fois en l'observant de la station-service. Mais là où j'étais à présent, je n'avais pas cette impression. À tout moment, des phares aveuglants pouvaient surgir en fonçant sur moi à 100 à l'heure. Un énorme camion, ou l'un de ces gros cars de transport qui roulent toute la nuit, remplis de passagers. Étais-je trop au milieu de la route? Oui, mais je ne voulais pas me rabattre plus près du bord, de peur de heurter le talus, car je risquais d'abîmer la roue avant et tout serait perdu. Je ne ramènerais jamais mon père à la maison. Le moteur s'était mis à trembler et à faire un bruit de ferraille. J'étais toujours en première. Il était vital de passer la seconde. Sinon le moteur chaufferait trop. Je savais comment on changeait de vitesse, mais je n'avais jamais vraiment essayé de le faire. Autour de la station-service, j'étais toujours resté en première. Alors, allons-y. J'ai relâché la pression sur l'accélérateur. J'ai enfoncé la pédale d'embrayage et je l'ai maintenue au plancher. J'ai trouvé à tâtons le levier de vitesse et je l'ai tiré vers l'arrière, en passant la seconde. J'ai relâché l'embrayage et appuyé à nouveau sur l'accélérateur. La petite voiture a fait un bond en avant comme si elle avait été piquée par un insecte. Nous roulions en seconde. À quelle vitesse allions-nous? J'ai jeté un coup d'œil au compteur. Il n'était que faiblement éclairé, mais j'ai pu voir qu'il indiquait 25 km/h. Très bien. C'était une vitesse suffisante. Je resterai en seconde. J'ai commencé à me demander combien de temps j'allais mettre pour faire 10 km en roulant à 25 à l'heure. À 100 à l'heure, 10 km me prendraient environ 6 minutes. À 50 à l'heure, il me faudrait deux fois plus de temps, c'est-à-dire 12 minutes. Et à 25 à l'heure, il me faudrait deux fois ça, c'est-à-dire 24 minutes. J'ai continué de rouler. Je connaissais la route par cœur, chaque virage, chaque petite montée ou descente. À un moment, un renard a surgi d'une haie, juste devant moi, et a traversé la route en courant, sa longue queue touffue flottant au vent derrière lui. Je l'ai vu clairement dans le rayon de mes phares. Il avait une fourrure brun-rouge et un museau blanc. C'était une vision magnifique. Je commençais à m'inquiéter pour le moteur. Je savais parfaitement qu'il serait en surchauffe si je conduisais longtemps en première ou en seconde. J'étais en seconde, il fallait que je passe la troisième. J'ai respiré profondément et j'ai empoigné une nouvelle fois le levier de vitesse. Enlevé le pied de l'accélérateur, enfoncé l'embrayage, le levier vers l'avant, puis un petit coup sur le côté et à nouveau vers l'avant. Relâché l'embrayage, j'avais réussi. J'ai appuyé à nouveau sur l'accélérateur. L'aiguille du compteur est montée peu à peu à 50. J'ai serré les mains très fort sur le volant et je suis resté au milieu de la route. À ce rythme, je serais très vite arrivé. Le bois de Hazel ne se trouvait pas sur la route principale. Pour y arriver, il fallait prendre à gauche, à travers une ouverture dans la haie, et monter la colline le long d'un chemin caoteux sur une distance d'environ 500 mètres. Si le sol avait été mouillé, il n'y aurait eu aucun espoir d'y grimper en voiture. Mais il n'avait pas plu depuis une semaine, donc le sol serait sûrement dur et sec. Je pensais être tout près de l'endroit où il fallait tourner à présent. Je devais faire attention car il était facile de le manquer. Il n'y avait aucun portail pour indiquer l'entrée. C'était simplement une petite ouverture dans la haie, juste assez large pour laisser passer les tracteurs. Soudain, loin devant moi, sous l'horizon du ciel nocturne, j'ai vu un éclat de lumière jaune. J'ai regardé attentivement en tremblant. C'était ce que j'avais redouté depuis que j'étais parti. Très vite, la lumière est devenue de plus en plus brillante, de plus en plus proche. Quelques secondes plus tard, elle a pris forme et s'est transformée en deux longs faisceaux blancs, les phares d'une voiture qui fonçait vers moi. L'endroit où je devais tourner devait être tout près maintenant. Je n'avais qu'une hâte, c'était de l'atteindre et de quitter la route avant que le monstre n'arrive à ma hauteur. J'ai appuyé fort sur l'accélérateur pour prendre de la vitesse. Le petit moteur rugissait. Le compteur est passé de 50 à 55, puis 65. Mais l'autre voiture s'approchait très vite. Ses phares étaient comme deux yeux blancs éblouissants. Ils devenaient de plus en plus gros et soudain, toute la route devant moi s'est éclairée comme en plein jour et swish ! La chose m'a croisé, comme une balle de fusil. Elle était si proche que j'ai senti un souffle d'air à travers la fenêtre ouverte. Et dans cette minuscule fraction de seconde où les deux voitures étaient côte à côte, j'ai aperçu en un éclair sa carrosserie blanche. J'ai su alors que c'était la police. Je n'ai pas osé me retourner pour voir si la voiture s'arrêtait pour me rattraper. J'étais certain qu'il s'arrêterait. N'importe quel policier au monde s'arrêterait s'il croisait brusquement un jeune garçon dans une petite voiture se traînant sur une route solitaire à 2h30 du matin. Ma seule pensée a été de me sauver, de m'enfuir, de disparaître, mais Dieu seul savait comment j'aurais pu y arriver. J'ai appuyé encore plus fort sur l'accélérateur. Et j'ai vu alors, dans la faible lumière de mes propres phares, la petite ouverture dans la haie, du côté gauche. Je n'avais pas le temps de freiner, ni même de ralentir. Je me suis donc contenté de tourner brusquement le volant et de prier. La petite voiture a viré violemment, a quitté la route, bondi à travers l'ouverture, heurté la soudaine pente du chemin, sauté en l'air et dérapé en biais, derrière la haie, avant de s'arrêter enfin. Ma première réaction a été d'éteindre mes phares. Je ne sais pas très bien ce qui m'a poussé à le faire. Je savais simplement que je devais me cacher et que si on veut se cacher dans le noir, on n'allume pas une lumière pour montrer où on est. Je suis resté assis, immobile, dans la voiture plongée dans l'obscurité. La haie était très épaisse et il m'était impossible de voir au travers. La voiture avait bondi et dérapé d'une telle manière qu'elle était sortie du chemin. Elle se trouvait derrière la haie, tout contre le feuillage, dans une sorte de champ et orientée maintenant vers la station-service. J'entendais la voiture de police. Elle s'était arrêtée sur la route, à environ 50 mètres, et à présent, elle reculait et tournait pour faire demi-tour. La route était bien trop étroite pour qu'elle y parvienne sans manœuvrer. J'ai alors entendu la voiture se rapprocher, et elle est revenue à toute vitesse, plein phare, son moteur rugissant. Elle est passée en un éclair devant l'endroit où je me cachais et a filé dans la nuit. Cela voulait dire que le policier ne m'avait pas vu quitter la route. Mais il était certain qu'il reviendrait me chercher. Et s'il revenait suffisamment lentement, il verrait sans doute l'ouverture. Il s'arrêterait et sortirait de sa voiture. Il franchirait la haie à pied, regarderait derrière et... Il braquerait sa torche sur ma figure en me disant « Qu'est-ce qui se passe, fiston ? C'est quoi le plan ? Où tu vas comme ça ? À qui est cette voiture ? Où habites-tu ? Où sont tes parents ?» Il m'emmènerait au poste, et les policiers finiraient par me faire avouer toute l'histoire, et mon père serait perdu. Je me suis fait aussi petit qu'une souris, et j'ai attendu. J'ai attendu longtemps. Puis j'ai entendu un moteur qui s'approchait à nouveau. Il faisait un bruit terrible. Le conducteur fonçait. La voiture est passée devant moi comme une fusée. À en juger par le régime du moteur, le policier devait être furieux. Il devait être aussi très étonné. Peut-être pensait-il avoir vu un fantôme, le fantôme d'un garçon qui conduisait une voiture fantôme. J'ai attendu de voir s'il allait revenir. Il n'est pas revenu. J'ai rallumé mes phares. J'ai appuyé sur le démarreur, le moteur s'est mis aussitôt à tourner. Mais dans quel état étaient les roues et le châssis ? J'étais sûr que quelque chose avait dû se casser quand la voiture avait quitté la route et sauté sur le chemin de terre. J'ai passé une vitesse et, très doucement, j'ai avancé. Je tendais l'oreille pour guetter d'éventuels bruits terrifiants. Il n'y en a pas eu. J'ai réussi à sortir la voiture de l'herbe et à la remettre sur le chemin. Je conduisais très lentement à présent. Le chemin était caoteux, avec des ornières, et la pente assez raide. La petite voiture sautait et rebondissait sans cesse, mais elle continuait d'avancer. Puis, enfin, devant moi, sur la droite, telle une gigantesque créature noire tapie au sommet de la colline, j'ai vu les bois de Hazel. J'y suis très vite arrivé. Des arbres immenses s'élevaient vers le ciel, tout au long du chemin de terre. J'ai arrêté la voiture, coupé le moteur et éteint les phares. Puis je suis sorti en emportant la torche. Il y avait la haie habituelle qui marque généralement la limite d'un bois. Je me suis faufilé au travers et soudain, je me suis retrouvé parmi les arbres. Quand j'ai levé les yeux, leur feuillage s'était refermé au-dessus de ma tête comme le toit d'une prison. Et je ne voyais plus le moindre morceau de ciel, ni la plus petite étoile. Je ne voyais plus rien du tout. L'obscurité était si dense autour de moi que j'aurais presque pu la toucher.
« Papa !» j'ai appelé. « Papa ! Tu es là ?»
Ma petite voix aiguë a résonné dans la forêt et s'est éteinte. J'ai tendu l'oreille en espérant une réponse, mais il n'y en a pas eu.